Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pourrez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de justice. Cette semaine, le ministre de la Justice, le dernier en date, celui qui se présente aux élections législatives dans les Hauts-de-France, a vu une plainte qui le concernait classée sans suite. Oui, je parle bien de M. Dupond-Moretti, qui aurait été très content de soutenir M. Dupond-Moretti quand il était avocat, mais maintenant il est ministre de la Justice. Eh bien oui, cette plainte a été classée sans suite par la Cour de justice de la République. Vous savez, la Cour qui juge les ministres en exercice, la Cour qui avait reconnu la culpabilité de Christine Lagarde dans l'affaire de l'arbitrage favorable à Bernard Tapie, mais l'avait dispensé de peine. Mais oui, entre amis. Comme pour Edmond Hervé, je confonds avec un autre, ministre de la Santé dans les années 80 à propos du sang contaminé. Là aussi, t'es coupable ? Ouais, non, mais t'auras rien. Et c'est ce qu'on aime dans la justice en France, c'est sa bienveillance vis-à-vis des mis en cause. Surtout quand ils sont jugés par leur père. Ce qui a peut-être manqué aux Gilets jaunes depuis le début 2019, eh bien, si les juges chargés de charger les Gilets jaunes attrapés parfois au hasard dans des manifs avaient fait partie de la population manifestant son ras-le-bol, Amnesty International n'aurait sans doute pas pu faire un rapport où elle dénonçait un acharnement judiciaire basé sur des lois vagues, bonnes à tout pour dissuader les populations de descendre dans la rue. Bon, M. Dupond-Moretti a encore une mise en examen au Derche depuis juillet 2021 pour prise illégale d'intérêt, mais la procédure avance à la vitesse d'un escargot malade, du coup, hein, la bienveillance, on vous dit. On aurait pu vous parler des nouvelles de la fin du monde. La canicule continue en Inde, où des incendies de monceaux de déchets s'ajoutent à la suffocation. En France, dès lundi 9 mai, le mercure va grimper, nous dit Météo France, dans les thermomètres pour atteindre les 25-30 degrés. Le 9 mai. Ah quand même. En même temps, l'activité trépidante de nos sociétés ne pouvant pas s'arrêter, les usines vont tourner, de la poussière en veux-tu en voilà, les carrières vont produire, de la poussière en veux-tu en voilà, et tout le monde va circuler. Je vous parie mon billet que les quantités d'ozone, de particules fines et autres joyeusetés qui mettent à mal notre santé vont s'envoler, et les préfectures vont pondre l'éternel arrêté préfectoral qui limite l'utilisation de l'eau et prévient les personnes à risque qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'entamer un marathon en plein cagnard. Mais heureusement, des reportages bienvenus de Pékin en terrasse va rassurer tout le monde. La fin du monde comme élément de la reprise dans le secteur du tourisme. Ça fait un bout de temps qu'on vous le dit, hein, pendant la fin du monde, les libéraux feront des affaires. Eh ben oui, on y est. À ce propos d'affaires, puisqu'on vous parle d'augmentation de température, eh bien on sait qu'en 30 ans, le climat français est devenu beaucoup plus méridional. Par exemple, maintenant, le climat de Caen, on le retrouve à Lille. Le climat de Lyon, on le retrouve à Strasbourg. Le climat de Bordeaux, on le retrouve à Paris. Le climat de Bordeaux, on le retrouve aussi à Nantes, celui de Nantes à Rennes, celui de Rennes à Caen. Et voilà comment ça fonctionne. Celui de Montélimar, on le retrouve à Lyon. C'est pas moi qui le dis, non, c'est Météo France. Et de fait, quand on dit le climat, on peut dire la température, mais pas seulement. Et ce qui fait un peu peur, c'est justement le problème des précipitations. Ce qui nous tombe sur la figure sous forme d'eau, hein, que ça soit de la neige, de la grêle, du grésil, mais tout simplement de la pluie, eh bien ça accompagne aussi cette notion de climat. Et là, ben, on est tous contents qu'il fasse plus chaud. Je peux me délasser dans mon jardin grâce à cette chaleur qui me permet de me sentir vraiment très très bien. Simplement, il pleut pas assez. Il pleut pas assez et tout est en train de cramer. Et dans l'agriculture, c'est quand même intéressant qu'on ait un petit peu d'eau pour pouvoir faire fonctionner, pour pouvoir faire pousser les plantes qui vont nous permettre de nous nourrir. C'est pourquoi d'ailleurs, un certain nombre de personnes se sont dit, notamment dans le Marais Poitevin, mais pas seulement, tiens, si on faisait des méga-bassines, hein, ces espèces de gros réservoirs à l'air libre qui vont permettre de pomper dans le réservoir quand on ne pourra plus pomper dans les nappes phréatiques à cause des problèmes de sécheresse. Tiens, restons sur la sécheresse. Cette semaine, rien de nouveau par rapport à la semaine dernière. Toujours une trentaine d'arrêtés dans une quinzaine de départements. Mais avec la semaine prochaine, je crois que ça va monter en flèche. Donc, quand on dit le climat est plus méridional, c'est cool le réchauffement du climat, on va avoir plus chaud, on va surtout avoir plus de désert. Eh bien, la France désertifiée, je vous rappelle quand même que dans la région de Marseille, la Provence, etc., on parle d'un climat semi-aride. Si ce climat semi-aride remonte jusqu'à Lyon, ça veut dire que bientôt, ça sera aride, tout simplement, en Provence. Aride, il ne fait pas bon trop y vivre. Alors, heureusement qu'il y a des gens qui animent la lutte. En l'occurrence, les soulèvements de la terre, entre autres, appellent à un charivari contre l'artificialisation de terres agricoles à la zappe de Pertuis. Les 14 et 15 mai, c'est la semaine prochaine, mais on vous le dit déjà, parce que la zappe du Pertuis, c'est quand même un peu loin. On est dans le Luberon, au nord d'Aix-en-Provence. La zappe du Pertuis, c'est la zone à patates. Ouais, parce que là-dessus sont plantées un certain nombre de patates, tout simplement, mais voire autre chose. Je cite le communiqué. La ZAP de Pertuis, zone à patates, défend avec de nombreuses associations et collectifs 86 hectares de terres agricoles en plaine de Durance, au pied du Luberon, dans le sud-est de la France, on en parlait. Ces terres agricoles fertiles, riches en biodiversité et irriguées, sont menacées par l'extension de la zone d'activité économique. Important l'activité économique, mais c'est quoi l'activité économique? Eh bien c'est tout simplement dans le système capitaliste ce qui rapporte de l'argent. Oui, la marchandisation des choses permet d'augmenter le produit intérieur brut qui permet de dire « Hey, il y a de la croissance mon gars, et cette croissance on va tous la partager ». Enfin on va tous la partager en moyenne, parce que sinon ce sont les plus riches qui gagnent, et puis pour les autres vous avez peanuts. Mais en moyenne ça a augmenté, ouh c'est cool. Donc la zone d'activité économique c'est continuer à produire pour produire, sans savoir si on en a vraiment besoin. Alors que l'air de rien, des terres agricoles, ça permet de se nourrir. Et se nourrir, c'est pas rien. J'irais même jusqu'à dire que c'est vital. Ce projet est porté, je reviens au communiqué, ce projet est porté par la métropole ex-Marseille et surtout par le maire du Pertuis, Roger Pélinck, un industriel puissant et influent qui veut s'accaparer 30 hectares sur les 86 concernés. Mais non, bien sûr que non, il n'y a pas de conflit. Un conflit d'intérêts? Bien sûr que non. Depuis 2019 quand même, la lutte s'organise dans différentes directions. Mobilisation, manifestation, recours juridique, occupation de terres, culture de patates, culture de fèves, culture de blé. Et depuis fin novembre, il y a 4 maisons expropriées qui sont occupées, créant ainsi une base de résistance 13 active. Oui, la prochaine fois, là je sors du communiqué de la ZAP du Pertuis. Si vous avez donc l'occasion d'aller vous promener dans cette région les 14 et 15 mai, participez donc au charivari. Un charivari, c'est faire du bruit pour dénoncer quelque chose pour lequel on n'est pas très très content. La prochaine fois donc que vous entendez un élu, un édile promettre de faire la ville sur la ville, 0 hectare d'artificialisation, la neutralité carbone et tutti quanti, n'oubliez pas que le sous-texte est le suivant. Je suis bidon. Oui, il est bidon, mais il a un intérêt à l'être, sans doute être élu, sans doute un petit billet qui tombe, sans doute que c'est lui-même qui fait en sorte d'augmenter l'artificialisation parce qu'il va pouvoir y mettre, je sais pas moi, un entrepôt, une usine, un truc, un machin. Bon, pour en savoir plus, parce que c'est toujours mieux d'être informé pour se faire un avis, vous pouvez aller voir sur zappertuis.noblogs.org. Si déjà dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez zappertuis, Z-A-P-P-E-R-T-U-I-S, vous devriez trouver. Les 21 et 22 mai, des collectifs s'attaquent aux extensions d'autoroutes. On en reparle. On aurait pu vous parler également des poussées à bout. Dimanche 1er mai, dans plusieurs villes, des cibles symboliques ont baissé vitrine et des affrontements ont eu lieu avec des forces de l'ordre qui, comme le nom l'indique, défendent une certaine conception des rapports sociaux. En clair, la hiérarchie qui veut que des populations soient soumises à des décisions prises par des soi-disant représentants et les lobbies qui les travaillent. Les soi-disant représentants. À Paris, une femme a entrepris de bastonner un pompier. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Tout de suite présentée comme une pétroleuse avide de violence, pour le Figaro, elle est, je cite, « réfractaire, peu coopérative, fermée ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'a rien dit aux policiers pendant la garde à vue. Et de fait, petit rappel, il convient de ne rien dire aux policiers durant une garde à vue pour ne pas incriminer par mégarde toute autre personne ayant participé de près ou de loin à ce qui vous a mené en garde à vue. Il apparaît que sa carte de visite à la femme en question n'est pas si noire et rouge. Non, non, mercredi, devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, ses avocats ont demandé, comme c'est le droit d'ailleurs pour tout justiciable, d'avoir le temps de préparer sa défense. La comparution immédiate, ça ne touche en aucun cas et jamais les gens qui passent devant la cour de justice de la République. Non, eux ont le temps de préparer leur défense. Eh bien, vous avez le droit aussi. Hein, la comparution immédiate n'est pas obligatoire, contrairement à ce que pourraient vous dire les policiers et à ce que pourrait vous dire également l'avocat commis d'office qui n'a pas trop envie de se fouler avec votre histoire. Non, non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'en attendant votre procès, vous pouvez vous retrouver en prison. Eh bien là, ce n'est pas du tout le cas. Elle a été placée sous contrôle judiciaire, la femme dont on est en train de parler, et non pas en détention. Et elle s'avère que c'est une mère de famille lambda qui doit pas rigoler tous les jours quand les ressources financières diminuent vitesse grand V alors que la fin du mois, et donc la paye, n'est pas encore pour demain. Comment on passe de galérien du quotidien à bousculeuse de pompiers ? Comment ? Quels paliers sont d'abord franchis avant de se dire que celui qui éteint un incendie doit être arrêté parce qu'on a envie de tout laisser cramer ? Cette femme me rappelle un petit peu l'infirmière qui, en juin 2020, avait balancé des pierres et fait des doigts d'honneur à des policiers harnachés comme pour aller à la guerre, avant d'être arrêtée et traînée par les cheveux par les suscités. Elle avait plaidé à son procès, pas de comparution immédiate également, elle avait eu le temps de préparer sa défense, c'est ce qu'il faut faire, hein, systématiquement, sinon bah, ça s'appelle de la justice d'abattage. Ah ! À moins d'être ministre, parce que là, il n'y a jamais de justice d'abattage. Vous avez du temps. Elle avait plaidé un geste symbolique, avait soutenu ne pas s'être reconnue dans les images qu'elle voyait. Nos soi-disant représentants devraient peut-être se poser des questions et arrêter de compter des points de PIB, s'occuper surtout d'améliorer la vie de chacun comme ils le promettent à chaque élection. Et s'ils n'en sont pas capables ou pas si volontaires que ça pour appliquer des programmes taillés sur mesure pour nous embourber, eh bien qu'ils cèdent la place, qu'ils donnent un sens autrement plus profond à notre passage sur Terre que l'accumulation de pouvoir d'achat. Ça évitera peut-être à des gens de se dire à un moment « mais je n'en peux plus, on ne m'écoute pas, mais je n'ai aucune prise sur rien. Tiens, si je balançais des paftons sur des flics ou alors si j'allais empêcher un pompier de faire cramer tout ce que je n'ai pas contribué forcément à allumer, mais qui continue à brûler. » Passer de l'individu lambda à casseur, a priori, il y a des étapes. Si nos soi-disant représentants pouvaient s'arranger pour qu'on ne les passe pas, merci d'avance. Mais peut-être qu'on n'en a pas si besoin que ça de nos représentants. Si on décidait nous-mêmes de la façon dont ça se gère, de manière bienveillante, hein, oui, comme la justice le fait avec nos ministres, eh bien, on n'aurait peut-être pas des gens qui pètent des plombs comme ça. Je dis peut-être, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Dans la série, c'est peut-être le moment justement de faire autrement. On aurait pu vous parler du niveau historiquement en bas de la vente des véhicules individuels à moteur thermique ou électrique, ou même parfois les deux. Eh oui, il y en a qui ont deux moteurs dans leur bagnole. Les bagnoles ne se vendent plus, en tout cas pas dans le neuf. Bon, ben qu'on se rassure, la tendance n'est pas la même dans le secteur du luxe. Ouf, les riches peuvent continuer à acheter des voitures de riches. Le phénomène touche la France, mais aussi la Belgique, par exemple. Il faut croire que la population n'a plus vraiment les moyens d'investir son temps de travail rémunéré dans un signe extérieur de richesse qui pollue, qui tue et qui rend con, pour reprendre un slogan. C'est peut-être même le moment pour nos soi-disant représentants de constater que le modèle de la bagnole pour tous n'est plus d'actualité et n'est surtout pas souhaitable, tout simplement parce que ce n'est pas soutenable par la planète. Il conviendrait de réparer ce qui existe déjà et de commencer à promouvoir les transports collectifs. Et si on réfléchit un petit peu plus loin, on pourrait même s'interroger collectivement, mais pas dans le cadre d'élections de renards nous prenant pour des corbeaux, mais nous interroger collectivement, disais-je, pour savoir à quoi correspond cette frénésie. À quoi correspond cette frénésie de déplacement qui nous pousse dans les bouchons matin, midi et soir ? Et soyons conséquents, si on s'apercevait que c'est le travail salarié, on pourrait se demander s'il est bien raisonnable de continuer. On aurait pu vous parler de Renaissance. Bah ouais, Reconquête, c'est déjà pris. Oh mince, bah on va s'appeler Renaissance. La République en marche n'est plus. Bonjour Renaissance. Renaissance n'est pas seule. Non, elle est associée à Horizon, au pluriel, et le Modem, pour donner Ensemble, conglomérat de partis au nom si peu évocateur, tant l'idée est d'attraper n'importe quel gogo dont la culture politique frise le néant. La cérémonie d'investiture de Ensemble a permis de donner la parole cette semaine à deux mis en examen. Le président en titre de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, dont l'affaire s'enlise dans les marais de la justice, la bienveillance, je vous disais, quand les comparutions immédiates pleuvent pour certains, et François Bayrou, haut commissaire au plan de relance, un strapontin créé sur mesure pour un personnage qui pense que 4000 euros par mois, c'est le salaire habituel de la classe moyenne. Moi, je dis qu'on est bien parti. Ensemble. On aurait pu vous parler de clientélisme pour répondre aux demandes d'aide d'affidés locaux de La République En Marche, ou en tout cas de droite. Eh bien, à Toulouse et à Bordeaux, et montrer ses muscles, Gérard Darmanin passe son temps à dissoudre des organisations radicales antiracistes. Et en mars dernier, son compte Twitter bruissa de la dissolution par décret en Conseil des ministres de deux groupes de défense de la Palestine. Il semble que cette dissolution soit encore un coup de com', puisqu'elle est tellement mal ficelée que le Conseil d'État a invalidé l'opération et condamné l'État à verser 3000 euros aux deux organisations que l'on n'a pas cité. Dans l'histoire, ce qui me fatigue le plus, c'est que nous soyons les payeurs en tant que contribuables des coups de menton du ministre de l'Intérieur, dont le but et son pédigré, nous le rappelle à chaque instant, est de continuer à faire carrière dans la droite décomplexée. Mardi 26 avril, c'était la mosquée de Pessac qui gagnait aussi devant le Conseil d'État, alors qu'elle avait été fermée sur décision de l'Intérieur depuis mars. Et le tribunal administratif lui avait déjà donné raison, mais le ministère de l'Intérieur avait organisé un recours. Les élections législatives qui se profilent vont peut-être encore être l'occasion d'instrumentaliser la lutte contre l'extrémisme religieux en fermant à tout va des lieux de culte. Du pain béni pour les fondus musulmans qui cherchent des arguments pour alimenter leur paranoïa. Oui, c'est parce que les musulmans sont attaqués que les fondus musulmans les défendent. Eh ben, un peu de finesse, que diable. Ben, on a préféré vous parler de valeur. Et comme on a préféré vous parler de valeur, il y a un petit jingle. Toute la semaine, on a entendu des cris d'orfraie. Ah, les valeurs de la gauche, les valeurs du parti, les valeurs de la social-démocratie. Oui, ce sont les gros ténors. Pourquoi j'ai dit gros? Les grands ténors du PS qui se plaignent de ne plus être respectés et que surtout les valeurs du Parti Socialiste ne le sont plus. Et là, la grande scène de l'acte 2, vous savez, la pleureuse ou le pleureur, en tout cas quelqu'un qui est en train de nous la jouer. Mais... comment cela est-il possible? On rappelle quand même que le 14 janvier 2014, François Hollande, alors président de la République française, revendique la qualité de social-démocrate, mot qu'il avait jusqu'alors évité de prononcer. Et bien là, au cours d'une conférence de presse qui est rapportée par Le Figaro le 14 janvier 2014, on apprend que, eh bien oui, il est social-démocrate. Le 31 décembre 2013, lors de l'allocution du président, il avait déjà dénoncé des abus et des excès pour la sécurité sociale. Il avait ensuite plaidé pour des économies importantes et une baisse des impôts. Eh mais ça ressemble tout à fait à une politique libérale, ça. C'est-à-dire que le collectif, bah, on s'en fiche un petit peu, ça coûte trop cher. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que chacun puisse se débrouiller tout seul, sans solidarité, surtout dans un monde où on nous fait croire qu'on a les mêmes chances dès le départ. Alors que tout ça est totalement faux, puisqu'il y a un taux de reproduction très très important. Oui, les riches font des enfants qui deviendront riches, et les pauvres font des enfants qui deviendront pauvres. Eh bien là, un président socialiste, François Hollande, oui, puisqu'il était socialiste, enfin non, je dis des bêtises, membre du PS, eh bien disait déjà qu'il y avait des difficultés. Hein. Il parlait également d'un État trop lourd, trop lent, trop cher. Mais oui, le collectif, c'est trop cher. Eh bien là, il avait dit qu'il était socialiste et finalement, il est social-démocrate. Aïe, 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 petit problème quand même. Se souvenir, tiens, que parmi ces socialistes, on avait par exemple Jean-Claude Boulard, qui était maire du Mans et qui faisait partie du petit groupe de sénateurs, sur la fin de son mandat, des sénateurs de La République En Marche. Oui, dès le début de l'année 2017, il avait changé de groupe, il n'était plus au PS, mais il était à La République En Marche. Donc déjà, il était passé à droite, il était conséquent au moins. On a maintenant, dans les cris d'orfraie, un certain Stéphane Le Foll, qui, je vous le rappelle, est l'adorateur d'une notion dont il nous rebat les oreilles depuis un certain temps, depuis 2018, et il fait des textes régulièrement sur la fameuse croissance sûre. se souvenir que Stéphane Le Foll n'avait pas eu de candidat à La République En Marche face à lui en 2017, ce qui aide à conserver plutôt son siège de député de la 4e circonscription de la Sarthe en 2017, puisque vous avez un concurrent en moins, et en plus un concurrent qui avait forcément le vent en poupe, puisque tout le monde était sur le principe du dégagisme et se disait « les anciens, on les vire, alors que par contre les nouveaux, on les met en place ». Bon. Parfois, il vaut mieux essayer peut-être quelque chose de nouveau, mais si ça a une consistance. La République En Marche, c'était juste de la droite qui faisait croire qu'elle était ni de droite ni de gauche. Alors, ce serait bien de justement chercher à connaître les valeurs quand même de ces choses-là. Au moment de sa victoire dans la 4e circonscription de la Sarthe en 2017, Stéphane Le Foll avait dit à propos de l'avenir du PS... Attention, je cite, « La question qui est posée est de savoir ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. Il faut être capable de réfléchir collectivement à l'identité que l'on veut porter. » Eh ben, je sais pas, tu t'appelles Parti Socialiste, fais du socialisme. Pour Stéphane Le Foll, l'identité est claire. Le socialisme du XXe siècle, c'est donc la croissance sûre. C'est-à-dire la remise en œuvre du développement durable, qui allie l'économie, le social et l'environnement. L'économie dont on parle, c'est l'économie capitaliste. Sans doute possible, les textes du maire du Mans sur la croissance sûre reprennent les concepts libéraux d'efficacité pour accroître le confort. Ah oui, et bien sûr sauver notre modèle social, on peut pas lui en vouloir. Rien de nouveau sous le soleil, on n'est pas loin du ruissellement si cher aux riches, abreuvant de miettes certains pauvres. Pas tous, non, chacun les siens. Un socialisme si bien dissous dans l'économie libérale a vraiment peu de chances de répondre aux enjeux du moment. Il utilise même les concepts d'écologie punitive, je parle de Stéphane Le Foll, et dénigre la sobriété heureuse comme une attitude individuelle sans grande portée. Et pourtant, si on veut changer, on doit d'abord passer par nous-mêmes. Monsieur Le Foll a médité. En ce moment, il est invité des plateaux télé pour dire pique-pendre des accords sur des programmes qui se rapprochent du socialisme entre partis de gauche ou presque. Oui, je dis qu'il se rapproche du socialisme, parce qu'on n'est pas encore sorti des ronces. Mais au moins, c'est une tendance. À la suite d'autres comme Bernard Cazeneuve, qui fut Premier ministre de François Hollande, il assène qu'en négociant avec la France Insoumise, le PS, je cite, « tourne le dos à toute son histoire ». Eh ben n'allons pas trop loin, remontons juste à la création du PS. En 1971, qui a dit « Celui qui n'accepte pas la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut être adhérent du Parti Socialiste ». Ah oui, c'est vrai, on n'est pas en discussion dans la radio, donc du coup... Je vous donne la réponse. Discours de François Mitterrand en 1971 au congrès de fondation du Parti Socialiste. Donc, tourner le dos à toute son histoire, j'ai du mal à comprendre de quelle histoire nous parle Stéphane Le Foll. Alors, c'était au siècle dernier, c'était il y a 50 ans, donc c'est périmé. À ce moment-là, ça peut plus s'appeler le Parti Socialiste. Mais c'était il y a longtemps. Depuis les dirigeants du PS sont devenus des libéraux qui matinent leur politique d'un peu de social. Rapport au nom du parti. Parmi l'aile droite du PS, l'aile gauche étant partie en 2017 avec Hamon dans Génération et d'autres formations, on retrouve dans cette aile droite Stéphane Le Foll qui donne de la voix pour torpiller un accord électoral avec LFI. Accrochés à leur strapontin, les éléphants du PS sont de retour. Une nouvelle génération d'éléphants, mais pas facile à faire bouger quand même. Et je dirais que peu importe la casaque aux législatives, puisqu'on me demande mon avis. Les élections législatives, c'est encore demander l'avis aux citoyens français. Bon, voilà, j'ai la carte d'identité qu'il faut, je suis inscrit sur la liste. On me demande mon avis. J'irai voter, j'irai le donner en votant contre le capitalisme pour la mise en œuvre d'une économie socialiste. Mais pour être sûr que la majorité de gauche qui sortira de ces élections applique vraiment son programme, je considère qu'il va falloir juste après se mettre en grève. Oui, une grève conséquente, une grève conséquente qui dure pour leur dire « Eh les gars, vous avez promis ça, c'est ici et maintenant. Eh non, c'est pas ailleurs et demain. » Par exemple, ça pourrait être quoi, cette mise en place? Puisqu'on parle d'économie socialiste, souvenons-nous qu'elle se caractérise fondamentalement par la propriété collective des moyens de production. Alors, ça peut être sous la forme de propriété publique. Tiens, par exemple, les moyens de production appartiendraient à une municipalité. Ah, certains voient où je veux en venir. Ou alors à des coopératives, c'est-à-dire des groupements de personnes qui se mettent ensemble pour travailler quelque chose sur un sujet. Vous voyez, on reste vague, hein, puisque ça peut concerner n'importe quel pan de l'activité économique. Donc, des coopératives autonomes ou une propriété publique. Je n'ai pas parlé de propriété de l'État, parce que ce serait peut-être pas mal de ne pas gérer des populations à 10, 20, 30, 60 millions. Mais non, ce n'est pas raisonnable. Quand on parle de collectif, ça n'implique pas la possession des moyens de production de richesses par l'État, de faire une économie planifiée à l'échelle d'un pays comme la France, puisque ça revient à priver les habitants du droit à décider de ce dont ils ont besoin. Tenter la même expérience à l'échelle d'une région comme les Pays de la Loire est tout aussi voué à l'échec. Imaginez 4 millions d'habitants. Comment les mettre ensemble sur l'ensemble de leur quotidien ? Non, non, faut partir de beaucoup plus bas. La production des richesses ne peut être démocratique que si elle émane d'une population réduite qui localement décide de ce dont elle, de ce qu'elle produit en tenant compte des ressources à disposition, mais surtout des besoins et non pas du profit potentiel par l'extension du marché à l'échelle de la planète. L'économie de la permanence, par exemple, de l'auteur indien Joseph L'économie de la permanence, par exemple, de l'auteur indien Joseph Kumarappa, où chacun doit contribuer à son autosuffisance par son activité agricole ou par la fourniture de services dans une entité de la taille d'un village qui a vocation à être autosuffisant sur un certain nombre de produits, mais pas sur tout. Non, non, l'idée, c'est quand même d'échanger avec d'autres, parce que la taille est importante. Là, on parle de la taille d'un village pour cette économie de la permanence. Eh bien, loin du libre-échangisme si cher à l'Union européenne version économie sociale de marché, un certain Ernest Schumacher, qui est un économiste allemand réfugié au Royaume-Uni après l'arrivée des nazis au pouvoir, donc on est dans le premier tiers du XXe siècle, il prenait, je cite, « la production de ressources locales pour des besoins locaux comme la voie la plus rationnelle pour l'économie ». En 1973, il publie « Small is Beautiful », sous-titré « A Study of Economics as is People Mattered », que l'on pourrait traduire par une étude de l'économie comme si les gens comptaient. Mais oui, parce que dans l'économie capitaliste, qui est basée sur la philosophie libérale, on nous dit que c'est pour faire le bonheur des gens si on écoute les utilitaristes, ceux qui ont amené cette philosophie libérale à ses sommets. Mais finalement, on ne tient pas compte des gens. On veut leur amener le bonheur. Par quoi ? Par le matériel. Eh bien, du coup, ça pose un tout petit problème. Si c'est une étude de l'économie comme si les gens comptaient, on s'aperçoit que la rationalité ne nous amène pas à faire du libéralisme ou du libre-échangisme et de l'accumulation de profits comme le capitalisme, mais à faire plutôt, comme le disait l'ami Schumacher, la production de ressources locales pour des besoins locaux. Alors, à méditer cette notion de localité. Et pour ce faire, on va se tirer un petit coup de bouchine. Ouh, il nous reste peu de temps. C'est tiré de « Mort d'une petite planète, c'est la croissance qui nous tue » qui est paru en 1989 dans Progressive, qui est un journal de gauche états-unien. Ce que les environnementalistes doivent souligner, c'est que la crise économique est systémique et pas seulement la conséquence d'accidents aléatoires. Si le désastre de l'Exxon Valdez, il a donné une marée noire, est traité comme un accident, ainsi qu'on l'a fait pour Tchernobyl et Three Mile Island, nous aurons détourné l'attention du public d'une crise sociale aux proportions historiques. On ne vit pas seulement dans un monde de problèmes, mais dans un monde hautement problématique, une société intrinsèquement anti-écologique. Ce monde anti-écologique ne sera pas guéri par les actions d'hommes d'État ou par la promulgation de législations partielles. C'est un monde qui a terriblement besoin de changements structurels de grande envergure. Notre problème systémique le plus manifeste est peut-être la croissance incontrôlable. Je dis à dessein incontrôlable et non incontrôlée. La croissance dont je parle n'est pas celle de la colonisation de la planète à travers des millénaires d'histoire. Il s'agit plutôt d'une réalité matérielle inexorable propre à notre époque. La croissance économique illimitée est censée être la preuve du progrès de l'humanité. Nous avons tellement pris pour acquis cette notion au cours des dernières générations qu'elle s'est comme immuablement fixée dans notre conscience, tout comme le caractère sacré de la propriété elle-même. Et un peu plus loin, la société de marché semble avoir effacé de la plupart des mémoires l'existence d'un monde qui autrefois posait des limites à la croissance, mettait l'accent sur la coopération plutôt que la compétition et donnait de l'importance aux dons en tant que lien de solidarité humaine. Voilà, c'était Schaeffer et Bookchin à relire sur le municipalisme libertaire et donc la solidarité humaine. Autant de valeurs qui sont démonétisées dans le modèle économique actuel. La solidarité ne génère pas de factures, donc rien dans le produit intérieur brut. Et pourtant, quelle richesse matérielle peut concurrencer l'entraide entre êtres humains ? Une question comme ça, pour y répondre, on va continuer à essayer de réfléchir. Et en attendant, on vous dit allez, au revoir.